France Inter, le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin et porte-parole du gouvernement.
Bonjour à vous Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Des chefs de service aux aides-soignantes, en passant par les cadres de santé, les infirmières, les secrétaires, tous les corps de métier de l'hôpital public sera dans la rue aujourd'hui. C'est un mouvement d'une ampleur inédite. 70 directeurs de la PHP vous interpellent dans le journal Le Monde. Ils disent... On est arrivé à un point de rupture, l'hôpital public s'écroule. Sur le constat, ils ont raison ou ils exagèrent ?
Non, je crois qu'ils ont raison de pointer les très grandes difficultés dans lesquelles se trouve aujourd'hui l'hôpital public. C'est pas des difficultés qui datent d'aujourd'hui, d'hier ou d'avant-hier. Elles perdurent depuis très longtemps. L'hôpital a souffert, Dominique Seux avait l'occasion de le dire à l'instant, d'un déficit d'investissement. Peut-être aussi d'un déficit d'attractivité des professions médicales dont on voit bien que pour un certain nombre d'entre elles, pas toutes, mais le pouvoir d'achat s'est atrophié. Les conditions de vie sont plus difficiles. Donc oui, ils ont raison de pointer ces très grandes difficultés.
Agnès Buzyn va annoncer dans quelques jours, c'est ça, la semaine prochaine, c'est bien ça, le plan d'urgence pour les hôpitaux.
Écoutez, je ne connais pas l'agenda d'Agnès Buzyn. Je sais qu'elle est attachée en ce moment à faire beaucoup de consultations. Elle voit les professionnels de santé, elle voit des directeurs d'hôpitaux et il faut qu'elle voit également les organisations syndicales, c'est important. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle annoncera les choses précisément, mais il y a effectivement un plan pour l'hôpital qui se prépare.
Dans les prochains jours, l'idée d'une reprise partielle ou totale de la dette des hôpitaux est-elle exclue ?
Alors, je vous le dis tout de suite, je ferai aucune annonce dans aucune direction, parce que c'est pas à moi de le faire, c'est à l'excellente ministre en charge de la Santé de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que la conviction qui est la mienne, c'est qu'on a pendant très longtemps apporté à un vrai problème une très mauvaise solution. Le vrai problème qu'on a, et qui est normal dans une société développée comme la nôtre, c'est de savoir maîtriser nos dépenses, et en particulier nos dépenses de santé. On y a apporté une mauvaise réponse en pensant qu'il fallait réduire l'offre, la contraindre. Et donc on s'est mis, en quelque sorte, à moins investir dans l'hôpital, assez paradoxalement, alors que pour autant, les maladies sont toujours là et les techniques sont de plus en plus chères. Donc au fond, ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que la structure du système change, que le lien entre l'hôpital et la médecine de ville soit largement refondé. On s'y est attaqué, ça prend du temps. Il faut aussi des mesures d'urgence.
D'accord, donc pas d'annonce ce matin, je l'entends bien, mais quand même, si je lis, si je décrypte ce que vous me dites, c'est vous jouerez sur un des leviers, c'est-à-dire les dépenses des hôpitaux.
Ce qui est important de voir, c'est que malheureusement...
Vous les laisserez filer un peu plus.
Ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce qu'on dépense bien au bon endroit ? Est-ce qu'on a une vision ou pas dogmatique des situations ? Les hôpitaux sont dans des situations qui, pour beaucoup, sont différentes les unes des autres. Il y a des endroits... Moi, j'ai accouché à la maternité de Saint-Denis. La première fois que j'ai accouché, c'était dans un état complètement catastrophique. Et puis, la maternité a été rénovée. C'est un autre cadre de travail pour les professionnels. Donc, il y a des fois où c'est sur de l'investissement dans le bâtiment qu'il faut avoir. Il y a des moments où c'est de l'investissement dans les personnels. Et puis, il y a des métiers nouveaux qui émergent. Le fait de gérer des lits d'hôpitaux, c'est-à-dire de se poser la question de où est-ce qu'on peut mettre les patients, ça prend un temps administratif énorme et c'est pas aux professionnels de santé de le faire.
Thomas Legrand, vous l'avez entendu, a parlé de cet étudiant qui s'est immolé. On a entendu plusieurs de vos collègues ministres répéter hier que l'immolation de ce jeune étudiant devant le Crous de Lyon n'était pas un acte politique. Certains ministres ont même parlé de récupération par des groupuscules politiques. Est-ce qu'à vos yeux, cet acte du jeune homme, c'est un drame personnel ? Ou c'est un acte politique ?
Je pense que dans l'état actuel de l'enquête, c'est difficile à dire. Oui, il a laissé un message qui laisse à penser que son acte est politique. Moi, je nous appelle à beaucoup de prudence. Parce que avoir un geste aussi fort, un geste aussi tragique, ça n'est certainement pas exclusivement parce qu'on a une revendication politique. Vous savez, on est dans un pays, en France, Thomas Legrand citait tout à l'heure des cas célèbres, dans des pays qui n'étaient pas franchement des démocraties. En France, vous pouvez manifester, j'ai beaucoup battu de pavés, vous pouvez revendiquer sans aucune difficulté. Je crois qu'on doit d'abord cette décence et cette prudence de reconnaître qu'il y avait sans doute une souffrance personnelle très forte qui pousse ce jeune homme à avoir ce geste tragique parce qu'il n'a pas vu d'autres solutions.
Vous préférez retenir ça plutôt que l'acte politique,
moi,
malgré le mot qu'il a laissé.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude quel a été le processus par lequel il est amené à faire ce geste de désespoir.
Il y a un an, jour pour jour, invité sur TF1, juste avant la première manifestation des Gilets jaunes, le président de la République avait admis ne pas avoir réussi, je cite, à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Un an après, y a-t-il réconciliation ?
En tout cas, j'espère qu'on en est sur le chemin. On a, dans la deuxième partie du quinquennat, sous l'impulsion du président, souhaité faire en sorte qu'il y ait plus de dialogue, plus de concertation avec les Français. Parfois, c'est difficile. Moi, à chaque fois que je me déplace, ces dernières semaines, je fais des débats sur les retraites. Et on voit bien qu'il y a des moments où il y a du frottement, il y a beaucoup d'interpellations, il y a beaucoup d'inquiétudes, d'incompréhension sur ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on
vous
ait
êtes quoi
l'humilité.
Vous êtes prise à partie? Vous êtes insultée?
Ça m'arrive d'être prise à partie. Là, les 99% du temps, c'est très respectueux. Et au fond, les gens vous disent merci d'être là, merci d'être à nos côtés. Et je pense que les politiques ont un peu oublié le fait que faire de la politique, c'est d'abord être aux côtés des gens.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la France traverse une nouvelle crise sociale ?
Je dirais que depuis plusieurs années, notre pays se pose beaucoup de questions sur son avenir. Qu'on a une vision très négative de notre destin, comme si on était condamné à un déclin irrémédiable. Moi, au contraire, si je fais de la politique, c'est parce que j'ai envie de redresser le pays et j'ai envie de partager ça avec d'autres. Mais évidemment, il y a des quotidiens qui sont tellement durs, tellement difficiles, que c'est quasiment impossible de se projeter dans l'avenir. Notre rôle à nous, c'est de rendre ce futur possible.
On est aujourd'hui exactement à mi-mandat. Emmanuel Macron a choisi de marquer ce moment en passant la journée dans la Marne, auprès des élus. Il assistera notamment au conseil municipal d'Épernay. Vous venez de dire, on va à la rencontre des Français. Alors, pas tous, hein. La CGT voulait notamment manifester. Le préfet a interdit toute manifestation sur tout le tracé du cortège du président. Pourquoi vous interdisez les manifestations ?
Je connais pas la situation locale, je ne connais pas le profil des militants CGT ou de tous les militants qui peuvent être dans ce département-là en particulier. Les préfets, ils font une évaluation sur la base des services de renseignement qui permet de déterminer éventuellement s'il peut y avoir des violences qui s'expriment. Donc comme je connais pas la situation, je vais pas commenter l'acte administratif qu'a pris ce préfet, mais je n'ai nul doute sur le fait que s'il l'a pris, c'est pour des bonnes raisons.
Il y a ceux qui craignent l'immobilisme à mi-mandat, c'est la une du Figaro notamment, votre peur à aller au bout des réformes. Sur les retraites, vous en parliez, vous avez abandonné en 3 mois l'idée d'un âge pivot. Vous parlez maintenant d'une réforme qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux entrants, d'une période de transition qui ne serait plus de 10 mais de 45 ans. Vous allez vraiment faire la réforme des retraites que vous avez promise? Vous irez jusqu'au bout, comme a dit Dominique Seuillard, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le « et en même temps présidentiel » a été remplacé par le « stop and go ».
Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord parce que vous citez des décisions comme si elles étaient prises, alors qu'en fait, ça n'est absolument pas le cas. On est dans une phase de concertation, de négociation. J'ai suffisamment entendu dans différentes antennes des gens qui nous disaient que nous ne concertions pas assez pour que je m'étonne qu'il y ait un tel étonnement de la part de ceux qui nous voient aujourd'hui concerter. Moi, je pense que c'est...
Est-ce que vous irez jusqu'au bout ?
Mais bien sûr que nous irons jusqu'au bout de cette réforme.
Elle sera ambitieuse ?
Ça sera une réforme qui sera extrêmement ambitieuse parce qu'aujourd'hui, le système va très très mal. Donc elle sera ambitieuse, nous irons à son terme, mais nous sommes aussi capables de discuter des conditions pour réaliser cette réforme.
La croissance en France est plutôt bonne, il y a des créations d'emplois, mais le chiffre du chômage à mi-mandat, c'est une hausse. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes, il augmente légèrement le chômage de 0,1% au troisième trimestre après une légère baisse. Pourquoi il ne baisse pas plus franchement le chômage en France ?
Alors c'est une obsession quotidienne pour le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, évidemment pour Muriel Pénicaud. Au fond, quand vous regardez les réformes qu'on a menées depuis 2 ans et demi maintenant, elles ont pour beaucoup vocation à faire en sorte que le marché du travail permette de créer des emplois. C'est la première chose. Là, on a un palier, on a malheureusement ce palier, mais on a une baisse continue depuis plusieurs années, beaucoup de création d'emplois. Ça montre que le travail est encore devant nous.
Sibeth Ndiaye, est-ce que vous irez voir J'accuse de Roman Polanski ?
C'est une excellente question. Non, j'irai pas le voir parce que moi, j'ai besoin, quand je vais assister à un spectacle, de partager aussi quelque chose avec celui qui l'a créé. Je crois pas partager grand-chose avec un homme qui porte de telles accusations sur lui. Ce que je veux dire
est-ce
aussi...
Est-ce que vous appelez au boycott du film ?
J'appelle pas du tout au boycott du film parce que je pense qu'il faut conserver un peu de raison. Il faut garder les pieds sur terre. On ne peut pas condamner quelqu'un en absence de toute décision de justice. Moi, je pense que c'est important que la parole se libère, que les témoignages du passé permettent peut-être à des femmes aujourd'hui de dire les choses, mais il faut aller en justice.
Sibeth Ndiaye était notre invitée. Belle journée à vous.
Merci.